Voilà, merci encore pour ce partage. Alors, pour ce matin, j'ai choisi une parole par rapport à ce que nous allons vivre ensemble bientôt. Vous savez que dans moins de 2 mois, nous allons assister, en tout cas si vous êtes présents, assister à un spectacle centré sur la Bible, intitulé Esdras. Ça vous dit? Donc, n'oubliez pas cette date, le 31 octobre, à Villers, donc à la pub, à l'adresse et tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir à ce spectacle préparé par Omicros. Et je me suis dit, voilà, avant d'aller voir ce spectacle, ce serait bien quand même de se plonger dans le livre d'Esdras, dans ce personnage qui est assez intéressant. Alors, je vous avoue, je n'ai jamais prêché sur Esdras. On a fait plein d'études sur lui, mais je n'ai jamais apporté une prédication sur Esdras. Et je me dis, voilà, c'est l'occasion, hein, l'idéal de mieux connaître cet homme, voilà, un dimanche matin. Ça va, vous êtes prêts? J'ai choisi comme titre Esdras, briller dans la diaspora. Alors, si je vous dis par exemple, Esdras, ça vous fait penser à quelqu'un, à un autre personnage biblique qui pourrait être proche de lui? Néhémie, voilà. Souvent, on parle d'Esdras pour parler de Néhémie. On peut aussi encore parler de Esther ou même aussi Daniel. Alors, c'est quoi les points communs entre tous ces personnages, Esdras, Néhémie, Esther, Daniel? Ils sont tous juifs, oui. Et puis, déportés. Ils sont contraints de vivre dans la diaspora, loin de leur pays promis, et que, voilà, ils devaient justement vivre en captivité à Babylone, en Perse, ou en Perse. Et voilà. Mais il y a un autre point commun, c'est que tous ces 4 personnages ont été appréciés par les gens du pays, les gens qui gouvernaient même ce pays-là. Alors, cela soulève une question essentielle pour nous aujourd'hui. Voilà les personnes, on peut dire entre guillemets chrétiens, croyant en Dieu, ils vont très très loin de chez eux, dans un pays où ils sont très hostiles à Dieu, et finalement, ils sont appréciés. La question que je me pose est-il plus facile d'être chrétien, un chrétien rayonnant à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église? J'ai dit, est-il plus facile? C'est plus simple d'être entre frères et sœurs, on a les mêmes idées, les mêmes pensées, la même croyance, et on peut louer le Seigneur, c'est plus facile de vivre cela. Mais vivre ma foi à l'extérieur de l'Église, où on est hostile, et parfois on nous persécute à cause de notre foi, c'est plus difficile. C'est vrai. Et comment, dans ce cas-là, ces 4 personnages ont fait pour briller, pour apporter un super témoignage, au point que les rois étaient vraiment suggérés par leur témoignage. Ils leur ont fait plein de cadeaux. C'est incroyable. Donc, voilà comment ces 4 personnages ont-ils réussi à vivre de manière à être reconnus par les autorités du pays et même respectés par ceux qui ne... Parce que ces rois-là ne partageaient pas forcément leur foi. Au contraire, ils avaient une certaine croyance qu'il y a plusieurs dieux, mais ils respectaient le Dieu d'Israël. Et nous, lorsque nous serons avec les non-croyants, est-ce que nous leur donnons autant d'influence? C'est vrai que c'est un grand défi à relever. Alors, le slide suivant. Qui était Esdras? Qui était Esdras? Alors, le livre d'Esdras est composé de 10 chapitres. On peut diviser en 2 parties. D'abord, voilà, chapitre 1 à 6, le retour d'Israël. En fait, pendant, après la déportation, la première déportation, voilà, les gens partent, sont partis à Babylone. Et puis, quelques années plus tard, 48 ans plus tard, ben, Cyrus, roi de Perse, autorise les Juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, parce que le temple était complètement détruit. Alors, Zorobabel, un chef civil, et puis Yeshua, un grand prêtre, conduisent la première vague de déportation, de rapatriés dans le pays. Et c'est vrai qu'ils ont rencontré pas mal d'opposition, de rébellion aussi. Il y avait plein d'ennemis, mais malgré tout, ils ont réussi à construire le temple. Et finalement, oui, le temple est reconstruit, inauguré sous le règne de Darius. C'est un temps de restauration, je dirais, matérielle. Et puis, à partir du chapitre 7, on voit Esdras, jusqu'au verset 10, jusqu'au chapitre 10. C'est le retour spirituel. Une fois que le temple est construit, environ 80 ans plus tard, Esdras arrive pour restaurer la loi de Dieu dans le cœur du peuple. Parce que, en fait, vous savez que lorsque nous vivons avec d'autres cultures, on assimile leur culture. On abandonne parfois notre propre culture. Et les Juifs de l'époque, ils ont abandonné souvent Dieu pour suivre la culture du pays. J'aimerais vous lire, pour mieux connaître Esdras, chapitre 7, à partir de verset 5, je vous lis. Fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éliazar. En fait, on continue comme ça. Fils, 16 fois, fils d'Aaron. Donc, en fait, on voit ici, on apprend aussi que Esdras est le descendant direct d'Aaron, après 16 générations suivantes. Donc, Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vient de Babylone. C'était un scribe versé, donc expérimenté, vraiment noyé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem. La septième année de roi Artaxerxès. Esdras arrive à Jérusalem au cinquième mois de la septième année de roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Voilà, j'ai souligné des mots importants. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà jusqu'ici notre lecture. On voit à travers ce chapitre 7 que voilà, ce chapitre 7 marque vraiment ce tournant. Il nous présente Esdras et sa mission à Jérusalem sous le règne du roi perse Artaxerxès. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom. Voilà. Et puis on apprend au verset 5 que oui, il est descendant. Il est descendant. Tu peux passer le slide suivant. Il est descendant d'Aaron. Ça veut dire qu'il est le souverain sacrificateur. Il a donc une légitimité sacerdotale. Il peut même enseigner. Il peut même faire un culte. Et puis au verset 6, nous voyons aussi que il est le scribe versé dans la loi. Il est vraiment noyé par la parole de Dieu. Il connaissait bien la parole. Il n'était pas juste un simple copiste, mais un érudit, un maître de la parole de Dieu. Il maîtrise parfaitement la parole de Dieu parce qu'il a scruté la parole. Il connaissait, il comprenait bien. Et surtout, il mettait en pratique cette loi. La preuve que la vraie restauration passe par le retour à la parole de Dieu. D'ailleurs, quand Luther a vu plein d'erreurs chez les catholiques, il voulait faire une certaine réforme dans le catholicisme pour apporter un changement. Mais voilà. Et la première chose qu'il a fait, c'est retourner aux sources, étudier la parole de Dieu davantage. Il a traduit la Bible pour que tout le monde ait accès à cette parole si précieuse. C'est comme ça que la réforme a commencé. Bon, il a voulu faire la réforme au sein du catholicisme, mais comme il a été excommunié, il était obligé de créer le protestantisme. Et nous sommes issus de cette réforme. En tout cas, bref, oui, Esdras était un bon érudit. Et puis, on voit aussi qu'il avait reçu un certain décret. Décret par le roi Artaxerxès qui donne à Esdras voilà, toutes les autorisations. Tout d'abord, il donne cette autorité de mission comme quoi, au verset 14, j'ai pas mis dans le slide, le roi charge Esdras de mener une enquête civile et religieuse à Jérusalem afin de veiller à l'obéissance du peuple Israël à la loi de Dieu. Vous avez compris? Le roi, qui est païen, il a demandé à Esdras de mener une enquête sur place à Jérusalem pour savoir si les Juifs respectaient la loi de Dieu. Incroyable! Donc ça, c'est la première autorité qu'il a attribuée à Esdras. Et puis, au verset suivant, 15 jusqu'au verset 20, Esdras reçoit l'autorisation d'emporter d'importantes quantités d'or, d'argent et d'ustensiles destinés au temple. Parce que, encore, le temple était construit, mais à l'intérieur, c'était vide. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, devant cette vérité, ben, il permet à Esdras d'emporter des trésors qui est chez lui, le roi. Il donne son propre bien pour que, et même il lui rend ce qu'ils avaient pris de Jérusalem pour que voilà, cet temple soit honoré. Oui, le roi païen veut honorer le Dieu d'Israël. Voilà, c'est comme s'il reconnaissait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment vous comprenez ça? Un roi qui n'a rien à voir avec la religion des juifs, des croyants, il fait beaucoup d'efforts pour la reconstruction du temple, beaucoup d'efforts pour que le culte ait lieu de nouveau, et il envoie Esdras. Et puis, il lui donne aussi une autorité légale au verset 25. Le roi donc confère à Esdras le pouvoir de nommer des juges et magistrats pour rendre la justice selon la loi de Dieu. Ce n'est pas selon la loi des païens, mais c'est la loi de Dieu. Et ainsi, Esdras pouvait aussi justement appliquer des sanctions sévères, et y compris la peine de mort. Comment un roi qui ne croit pas en Dieu peut autoriser ce genre de choses ? En donnant des cadeaux, en lui fournissant toutes les matos nécessaires pour qu'il puisse rétablir le culte. Quelle est la clé du succès pour Esdras? Dans l'histoire de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, souvent les autres rois étaient impressionnés par les hommes de Dieu. Je donne un exemple, Joseph. Joseph qui montre un bon exemple, qui a des capacités d'interpréter des rêves que même, voilà, alors qu'on ne lui a même pas parlé de ce rêve-là, Dieu lui révèle, lui apporte une certaine révélation particulière pour que Joseph parle, interprète le rêve du Pharaon. Et ainsi, il a été apprécié et respecté. On voit aussi Daniel qui a aussi interpréter des mystères, des écritures, des visions, etc. On voit des miracles qui se sont produits chez Joseph, chez Daniel. Donc, on comprend pourquoi les rois étaient impressionnés. Mais pour Esdras, il n'y a eu aucun miracle. Aucun miracle. Il était juste un scribe, un érudit, qui étudie la parole de Dieu. Mais le fait juste d'être la parole de Dieu, un homme juste, un homme fidèle à Dieu, ça a permis de voir chez lui une lumière qui brille, la vérité qui éclate. Le roi a vu en lui quelque chose de différent. J'espère vraiment que le Seigneur Jésus nous permette d'avoir cette lumière en nous, dans la vie quotidienne, pour que nos amis, nos proches, puissent observer cette lumière que nous pouvons dégager avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu. Le secret d'Esdras. Le secret d'Esdras, il avait un cœur appliqué. J'aimerais vous lire dans verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur. Avait appliqué son cœur. En fait, si on cherche un peu le mot en hébreu, c'est il a donné, placé, c'est le mot Nathan, donné, placé, lève son cœur, le siège de la volonté et de la personne. Esdras a littéralement donné son cœur à Dieu, autrement dit. Il a choisi de ne pas avoir un cœur divisé. Il a pris cette décision de ne pas être dans le confort, mais vraiment de davantage faire des efforts avec un cœur entier pour le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à respecter vos décisions prises dans la vie courante ou des choses spirituelles? Souvent, on peut se dire au début de l'année, « Ah ben, cette année-là, je vais lire toute la Bible, ou au moins la moitié. » On prend une résolution, et puis au bout de 3 jours, c'est fini. Oui. Combien tiennent à toutes ces résolutions, à toutes ces décisions prises? Souvent, oui, nos résolutions sont émotionnelles. Par un coup de tête. J'ai entendu un super message de Jean-O qui m'a incité à prendre à par cœur des versets, et puis on se lance. Quelques semaines plus tard, c'est fini. Esdras, lui, il a pris une décision et il a orienté toute sa vie autour de 3 actions suivantes. Tu peux passer le slide suivant. Il avait 3 résolutions du cœur. Tout d'abord, étudier la loi de l'Éternel. Il voulait absolument connaître Dieu. Il a creusé la parole avec passion. Car la vraie vie spirituelle commence par la connaissance de Dieu révélée. Comme Luther, il faut scruter la parole. Il faut connaître. Et ensuite, non seulement il connaissait la parole, il était noyé par la parole de Dieu, mais aussi, la deuxième chose, il a mis en pratique. Si on connaît que la parole de Dieu, c'est comme si on était des théologiens. On connaît bien des raisonnements, des idéologies, la doctrine. Mais ça ne veut rien faire, ça ne veut rien dire si on ne met pas en pratique dans la vie courante. Lui, dans sa pensée, non seulement il voulait étudier la loi de l'Éternel, mais aussi il voulait vivre l'obéissance. Il ne voulait pas être un théologien théorique. Il voulait que la parole ne soit pas une information, mais qu'une parole qui transforme sa vie. Mettre en pratique ce que nous connaissons, ce que nous avons entendu. On a beaucoup chanté ce matin sur la confession, sur qui est Jésus et comment vivre dans ce monde. La troisième résolution que Esdras avait prise, c'était enseigner en Israël. Il voulait transmettre cette lumière. Il ne voulait pas garder seulement pour lui. Il a voulu partager ce qu'il avait reçu. Il a vu son peuple s'éloigner de Dieu. Il avait un cœur meurtri. Triste de voir son peuple s'éloigner de Dieu. Est-ce que vous avez cette tristesse en voyant nos proches s'éloigner de Dieu? Esdras avait vraiment été meurtri par cette vérité. Et il voulait transmettre cette lumière qu'il avait reçue et il voulait partager. Et partager cette bénédiction. Il voulait devenir une source de bénédiction comme Abraham a été. Comme Abraham a été. Troisième point. La faveur. Le fruit d'un cœur droit. Esdras. Alors, si je lis, je relis les paroles, souvent on voit apparaître ici, au verset 6, la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Verset 6. Au verset 9, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Il y avait cette faveur de Dieu qui était là. Finalement, ce n'est pas par nos mérites, par les œuvres que nous pouvons avoir tous ces privilèges, toutes ces bénédictions, cette lumière, mais parce qu'il y a eu la grâce de Dieu. Et la bonne main était toujours avec Esdras. Oui, il a vu la fidélité de Dieu et il voulait justement ressembler à Dieu en étant fidèle à Dieu. Il a vu l'intégrité de Dieu, il voulait aussi être intègre. Il a vu la sagesse de Dieu, il voulait être sage à travers l'enseignement et voilà, l'approfondissement de la parole de Dieu. Il avait un cœur entier pour le Seigneur. Oui. Et avec ce témoignage fidèle à l'Écriture, lorsque le roi l'a vu, il a vu quelque chose de particulier, différent en lui. C'est pour ça qu'il était aussi généreux vis-à-vis de Esdras et aussi vis-à-vis des Juifs. Vous savez que juste une seule personne, juste un seul témoignage a fait basculer une pensée pour tout un peuple. C'est Esdras qui a changé la position du roi. C'est lui qui a, enfin, par le témoignage d'Esdras, que le roi a décidé d'aider le peuple juif de retourner dans leur pays, de reconstruire pleinement leur temple et revivre leur culte. Oui. Le message pour terminer, j'aimerais vous dire, nous vivons dans notre Babylone. Et comment nous, on peut briller dans notre Babylone. Esdras a restauré la vie spirituelle du peuple à travers tout ce qu'il a pu apporter, en enseignant la loi. Il a rebâti vraiment le temple du cœur. Le temple était déjà construit des années précédentes, mais Esdras a apporté un renouveau, une restauration spirituelle à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis Néhémie a restauré aussi la sécurité, la dignité, en reconstruisant les murs malgré une opposition externe et interne. Il avait vraiment rencontré aussi des difficultés. Mais malgré tout, ces deux hommes-là nous montrent que la restauration complète pouvait aussi être faite. Ce qui est encore intéressant, c'est que dans ces messages, on peut aussi voir Jésus. Vous savez que le temple d'Esdras n'était qu'une ombre, parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, on dit souvent qu'il est le véritable temple, dans Jean 2. Jésus est le lieu de la rencontre parfaite entre Dieu et les hommes. C'est lui notre échelle, c'est lui qui nous réconcilie avec le Dieu le Père. Nous avons besoin vraiment de restaurer le temple. Voilà. Et ça veut dire quoi, restaurer le temple? C'est réconcilier avec Dieu, réconcilier avec Jésus qui a déjà tout accompli sur la croix. Et puis, on peut voir aussi la muraille restaurée. Jésus est le grand Néhémie qui bâtit son église. Et vous savez que dans Matthieu, il est dit que les portes de l'enfer ne prêteront pas contre elle, contre l'église. Et Jésus est le fondement de cette église. Il nous donne la sécurité éternelle. Cette roche, pierre angulaire, nous permet d'être sereine. Et faisons confiance davantage à ce Jésus qui nous aide en tout cas à avancer. Et puis, tout au long de cette lecture, on a vu quand même qu'il y a eu une restauration des peuples juifs parce qu'il y a eu un enseignement de la loi de Dieu. Et cette loi est importante. Dans le Nouveau Testament, la loi, enfin Jésus, est l'accomplissement vivant de la loi. Il y a eu peut-être la loi qui a été prononcée dans l'Ancien Testament n'était pas pleinement parfaite, mais c'est Jésus qui a apporté l'accomplissement vivant. Donc, faisons davantage confiance à ce Jésus, notre souverain sacrificateur. Aujourd'hui, donc, nous vivons dans notre propre Babylone, un monde souvent sceptique, un monde qui nous rejette parfois à cause de notre foi, un monde parfois qui nous persécute parce que nous croyons en Dieu. Mais Dieu cherche, vous savez, des Esdras modernes, des hommes et des femmes qui décident d'appliquer leur cœur à Dieu. Quand nous plaçons notre cœur en Dieu, notre vie devient une lumière, attirant la main de l'Éternel. Et prenons aussi le même engagement qu'Esdras en étudiant la parole de Dieu, en la mettant en pratique et aussi en la transmettant aux autres. C'est le secret d'une vie bénie, stable et utile pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Tu nous connais mieux que quiconque. On a étudié ce matin le personnage extraordinaire d'Esdras. On n'a pas vu en lui un grand miracle ou des révélations extraordinaires que tu as accordées à Daniel ou à Joseph. Mais il était juste droit. Il a étudié ta parole. Et non seulement il a étudié ta parole, mais aussi, il n'est pas resté théologien, mais il a aussi été un enfant qui obéit à tes recommandations, à tes préceptes, en mettant en pratique, en obéissant à ta parole. Aide-nous vraiment aussi à le ressembler davantage. Oui, tu agis dans notre vie quotidienne, de tous les jours, dans notre fidélité à toi. Et tu apprécies cette vie fidèle. Et en plus de cela, Esdras avait ce désir de transmettre ce message à son peuple qui périssait, qui s'éloignait de plus en plus avec toi. Que nous puissions aussi, une fois éclairés par toi, une fois reçu cette grâce immense, que nous puissions aussi transmettre à nos proches, à nos amis. Que chacun de nous puissions être une source de bénédiction pour notre entourage, pour mes amis, pour ma famille. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.